Booster Club, une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF. Christophe Maury.
Bonjour Didier Eichner.
Bonjour.
Vous êtes directeur du site La Tribune de l'Art.
Oui.
Et nous partons tous les deux au musée de la vie romantique dans le 9e arrondissement de Paris pour aller visiter une exposition formidable, enfin très annoncée, sur Géricault et les chevaux. Alors on voit des tas de publicités dans le métro, sur les abribus, il y a une communication formidable sur cette exposition, à l'occasion du bicentenaire d'ailleurs de la mort de Théodore Géricault, puisqu'il est mort en 1824. Les chevaux de Géricault, c'est une exposition qui explore les multiples représentations du cheval dans l'œuvre de Géricault. C'est un motif puissant et omniprésent. Elle réunit une centaine d'œuvres exceptionnelles provenant de collections publiques et privées. Alors, c'est tout à fait passionnant parce que le propos de l'exposition est très intéressant. On voit le cheval politique, puisque Géricault a souvent représenté des chevaux dans des contextes politiques, des scènes militaires, des portraits équestres. Il y a l'écurie sanctuaire. Pour Géricault, l'écurie est un espace créatif où on voit des lades, on voit des chevaux qui sont soignés. Et puis, on a Londres. À Londres, il voit à la fois des chevaux qui sont des chevaux ouvriers, qui descendent dans les mines, qui travaillent, des chevaux, j'allais dire, prolétaires, et puis des chevaux très chics du Jockey Club, des chevaux qui courent, on a des courses hippiques, et puis on a la mort du cheval, et une section de l'exposition qui montre la fin de vie du cheval, et qui est un thème poignant, on a un cheval mort, on a un cheval moribond, enfin, et on est très attaché au cheval, comme, qui est la plus belle conquête de l'homme, comme on le sait. Et on est très, très attaché au cheval et au cheval qui meurt. Alors, j'ai visité cette exposition et on va y retourner ensemble.
Très bien.
J'ai visité cette exposition et j'en suis sorti. Alors, le musée de la vie romantique est superbe. C'est un une très jolie petite maison au fond d'une impasse avec un très joli jardin. Ça y est, il fait beau. Enfin, allons-y, profitons du jardin, profitons de la verdure, profitons de la buvette qui est très sympathique. C'est une sorte d'oasis de paix et de silence en plein milieu des bruits de la ville. C'est vraiment un lieu formidable. Et l'exposition n'est pas très grande, mais on traverse la cour pour aller dans l'autre espace d'exposition. On monte un petit escalier. Il y a d'ailleurs un grand cheval qui est représenté sous l'escalier. C'est assez joliment fait. L'accrochage est très sympathique. Enfin, c'est très bien. Mais quand je suis sorti de l'exposition, j'y suis retourné. Parce que je me suis dit, mais c'est pas de la même main. C'est quand même très curieux. J'avais l'impression de voir une exposition de chevaux, sur les chevaux, mais pas du même artiste.
Ben je dirais qu'il y a probablement plusieurs artistes dans cette exposition. Vous avez raison sur la présentation de l'exposition, qui est remarquable, très belle. Ils ont tiré un très beau parti du grand atelier. Où ils ont, c'est vraiment très bien exposé, mieux que ça ne l'était avant. En tout cas, c'est très bien fait. Le problème de cette exposition, effectivement, c'est que tout est présenté comme de Géricault, sans point d'interrogation, sans attribuer.
J'ai photographié les cartels, tout est de Géricault.
Tout est
de Géricault. Il n'y a pas attribué à,
jamais,
ou école de Géricault, ou
à la manière de,
à la manière de, etc. Voilà.
Jamais. Dans le catalogue, d'ailleurs, on rajoute des œuvres et des photos d'œuvres de la même manière. Tout est de Géricault. Or, ces œuvres, une grande partie d'entre elles, bon, il y a beaucoup d'œuvres de collections privées particulières, des œuvres qui n'avaient jamais été présentées sous le nom de Géricault, et beaucoup d'entre elles, aucune d'ailleurs, n'est expliquée dans le catalogue. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune justification, même, c'est pas qu'il n'y a pas de notice, déjà quand il n'y a pas de notice, ça m'agace un peu.
Oui. Mais là, même dans pédigré.
Il n'y a pas de pédigré, il n'y a rien, il n'y a pas d'historique, il n'y a pas de bibliographie, et pour cause.
Pas de pédigré pour les chevaux, c'est embêtant.
C'est embêtant. il n'y a pas d'explication dans les textes, les quelques essais dont on nous dit qu'ils sont faits pour le grand public. Je défie le grand public de lire ces essais, ils ne sont pas forcément mauvais.
Ouais.
Parce que on peut parler d'histoire de l'art, les théories ne sont pas forcément mauvaises. En revanche, parler de Géricault avec des œuvres qui, pour une partie d'entre elles, ne sont peut-être pas ou probablement pas de Géricault, c'est un peu ennuyeux.
Mais oui. Et alors, il y a notamment des dessins. Et dans les dessins, on ne retrouve pas. Bon, il y a des dessins, il y a des esquisses, mais on retrouve pas la force de Géricault. Et moi, ça m'a étonné, si vous voulez, parce que c'est vraiment une très belle exposition sur le cheval.
La moitié de l'exposition est très belle, puisqu'il y a des œuvres absolument de Géricault, et Géricault est un immense peintre et dessinateur.
Dans son journal, Eugène Delacroix décrit ainsi Géricault qu'il a connu. Il a gaspillé sa jeunesse. Il était extrêmement tout. Il n'aimait à monter que des chevaux entiers et choisissait les plus fougueux. Je l'ai vu plusieurs fois au moment où il montait en selle. Il ne pouvait presque le faire que par surprise. À peine en selle, il était emporté par sa monture. Un jour, que je dînais avec lui et son père, il nous quitte avant le dessert pour aller au bois de Boulogne. Il part comme un éclair, n'ayant pas le temps de se retourner pour nous dire bonsoir, et moi de me remettre à table avec le bon vieillard. Au bout de 10 minutes, nous entendons un grand bruit. Il revenait au galop. Il lui manquait une des basques de son habit. Son cheval l'avait serré je ne sais où. Et lui avait fait perdre cet accompagnement nécessaire. Un accident de ce genre fut cause déterminante de sa mort. Depuis plusieurs années déjà, les accidents suite de la fougue qu'il portait en amour comme en tout avaient horriblement compromis sa santé. Il ne se privait pas pour cela tout à fait du plaisir de monter à cheval. Un jour, dans une promenade à Montmartre, son cheval s'emporte et le jette à terre. Cet accident lui causa une déviation de l'une des vertèbres. Donc c'est un passionné de cheval, c'est un cavalier fougueux.
Il connaît parfaitement le cheval. Et vous avez dit que vous êtes allé à l'exposition et vous vous êtes posé des questions. Je ne pense pas que vous soyez spécialiste de Géricault, moi non plus.
Non.
Disons-le clairement, je ne suis pas spécialiste de Géricault. Je suis historien d'art, je connais bien le 19e siècle, je pense connaître Géricault, mais ce que je dis quand il a dit, il y a une partie des œuvres, une grande partie des œuvres qui ne sont pas de Géricault, ce n'est pas moi qui le dis, ce sont des spécialistes de Géricault, à la fois des spécialistes du dessin, j'en connais plus beaucoup, des historiens d'art, des gens qui regardent, j'ai parcouru l'exposition avec eux, Philippe Grinchec que je peux citer, puisqu'il écrit largement sur cela, qui est conservateur du patrimoine, qui a fait tout l'œuvre peinte de Géricault, qui a beaucoup publié sur Géricault les chevaux d'ailleurs, qui s'est retiré il y a quelques années, un peu de tout cela, il est devenu photographe, mais il est resté historien de l'art, et depuis quelques années, il revient un petit peu sur Géricault, parce qu'il y a besoin de quelqu'un qui connaisse un peu Géricault.
Alors le catalogue raisonné va sortir normalement, mais c'est
annoncé,
le quatrième.
Annoncé depuis 2003.
Oui, mais c'est le quatrième catalogue raisonné.
Oui, mais c'est normal, ça, c'est logique qu'il y ait des catalogues raisonnés. Alors, il y a le catalogue de Germain Bazin, publié chez Le Chêne. Il y a un certain nombre de. Et puis, les choses évoluent. Il y a des choses qui sortent, des choses qui sont réattribuées, des choses qui sont désattribuées. Tout cela est normal. Mm-hmm. Ce qui n'est pas normal, c'est qu'on n'explique rien. Mm-hmm. Ce qui n'est pas normal, c'est qu'on n'explique rien. Donc, ce catalogue raisonné est annoncé depuis 2003. Peut-être qu'il paraîtra en 2025, 2030, 2040, je ne sais pas.
Ouais, enfin, c'est comme le catalogue raisonné de Modigliani, on l'attend toujours depuis 20 ans.
C'est vrai qu'il y a beaucoup de catalogues. Il y a certains catalogues raisonnés qu'on attend longtemps.
Oui.
On attend très longtemps. Mais si ces œuvres sont exposées et sont présentées dans le catalogue raisonné comme c'est prévu, puisqu'on nous a dit les preuves viendront plus tard, on aimerait bien que quand on fait une exposition, les preuves viennent maintenant, en tout cas un début de preuve. Là, il n'y a pas le début d'un commencement d'une preuve. Et ça, c'est très gênant, d'autant plus que visuellement, effectivement, il y a
ben
un problème.
Oui. Attendez, moi, je ne suis pas historien d'art, je ne suis pas spécialiste de Géricault, je suis un visiteur lambda d'un musée, je visite et je m'étonne.
Oui, alors,
c'est la raison pour laquelle je vous ai appelé, voilà. Parce que
ce qui est
je me suis dit, mais j'aimerais la parole d'un scientifique.
Ce qui est gênant, c'est qu'on trompe un peu le public, c'est-à-dire que le public, c'est normal, moi, si je visite une exposition d'art asiatique, dedans, en disant c'est telle période, tels artistes, etc., moi, je n'y connais rien, je vais dans un musée, j'ai confiance. Donc, les gens, d'ailleurs, il suffit de regarder le livre d'or, ils vont peut-être s'en prévaloir pour dire, les gens, c'est formidable, c'est extraordinaire. Mais j'ai fait une expérience intéressante. J'ai visité avec Philippe Grinchec et avec une autre spécialiste peinture, dessin d'ailleurs. Et on discutait. Et quelqu'un nous entendait. Et il disait, mais attendez, je ne comprends pas. Vous connaissez, vous avez l'air de connaître. Est-ce qu'il y a des problèmes? Et on lui dit oui. Ah oui, je me disais bien aussi. Et elle nous a montré des œuvres qu'elle trouvait problématiques. Eh bien,
oui,
elle avait raison.
Mais
c'est-à-dire
oui.
Que si on dit aux gens, regardez bien, ils vont se poser des questions.
Mais voilà. Oui,
il y a franchement certaines œuvres, c'est incompréhensible qu'on puisse les prétendre de Géricault.
Mais alors, il faut changer les cartels, simplement.
Surtout, il faut se poser la question. D'abord, il y a aussi un problème déjà d'un musée qui organise une telle exposition et des musées qui prêtent. Le Louvre prête beaucoup d'œuvres, des dessins, des tableaux, évidemment parfaitement bons, magnifiques. Mais en prêtant cela, dans une exposition comme celle-ci, quelque part, il légitime un peu toutes les autres œuvres qui sont en collection particulière, voire pour certaines sur le marché. Parce que ça, c'est aussi, c'est pas normal. Qu'on expose des œuvres qui sont sur le marché chez les marchands, très bien, pourquoi pas, mais normalement on doit le préciser.
Mais
Paris, marché de l'art, Paris, il y a une galerie qui c'est marqué, mais il y a d'autres œuvres dont je sais qu'elles sont chez des marchands, d'ailleurs le marchand lui-même ne se prive pas de le mettre sur les réseaux sociaux, eh bien ça n'est pas indiqué comme étant sur le marché de l'art, c'est marqué Paris, collection particulière. Pourquoi?
Mais alors à qui profite le crime?
Écoutez, moi le crime, c'est peut-être pas un crime, c'est
non,
un délit.
Mais
un délit peut-être.
Oui.
Je ne sais pas. Moi, je ne veux pas accuser à tort et à travers. Simplement, je pose des faits. Des faits. Oui. Il y a des œuvres.
Il suffit de dire que c'est une exposition sur les chevaux autour de Jéricho.
Oui, mais ce n'est pas du tout ce que veulent dire les gens. D'ailleurs, la conservatrice, la directrice et le commissaire, les deux commissaires, se sont exprimés notamment dans La Croix et dans Le Figaro. La Croix, un très bon article que je recommande. Et on dit, non, 100% des œuvres, il n'y a pas de doute, aucun doute, etc. Bon, bah écoutez, chacun se fera une idée. En tout cas, les spécialistes se sont fait une idée et le savent déjà.
Et le quidam aussi.
Et le quidam aussi, je pense, oui.
Alors, Jéricho, on parle souvent du radeau de la Méduse, c'est une œuvre emblématique. J'aimerais faire une petite parenthèse sur ce radeau de la Méduse, parce que on ne va pas souvent au Louvre quand on est parisien, quand on est français, on laisse ça aux touristes et c'est très dommage, c'est une œuvre quand même absolument énorme, une scène de naufrage qui est vraiment le symbole du romantisme français. Ce naufrage de la Méduse qui s'est passé en 1816, vous savez, la frégate française Méduse s'était échouée sur un banc de sable au large des côtes de l'actuelle Mauritanie et elle était chargée de matériel administratif avec des fonctionnaires, des militaires, et puis surtout, le type qui commandait le truc n'avait pas navigué depuis 25 ans.
C'est effectivement un commandant, un capitaine qui était nommé par le roi et qui n'était pas compétent.
Oui, donc, alors là-dessus, sur le bateau, il y a les bonapartistes et il y a les royalistes. Et alors, ils se foutent dessus. Enfin, donc, ça, c'est déjà compliqué, c'est pas une croisière. Hein.
Le vrai problème, en fait, c'est que le bateau a fait naufrage, sans doute par l'incompétence du commandant.
Ah oui.
Et c'est vrai que le tableau, et ça, c'est quelque chose que dit l'exposition, et depuis très longtemps, le commissaire Bruno Chénix, il a raison, c'est un tableau politique qu'il expose contre la royauté.
Enfin, absolument.
C'est évident, ça, il y a absolument aucun...
Contre la Restauration.
Contre la Restauration, on est en 1819, donc effectivement, au salon de 1819, effectivement, c'est la Restauration. Donc tout cela est intéressant et bon à dire, mais...
Donc le radeau fait, il y a 110 personnes dessus, il fait 70 mètres carrés, vous imaginez déjà, ils seront secourus par un bateau venu à leur rescousse qui s'appelle l'Argus.
Il n'y aura plus beaucoup de survivants.
Mais il y aura peu de survivants, il y aura des cas d'anthropophagie, et 5 survivants d'ailleurs mourront peu après leur arrivée à Saint-Louis du Sénégal. Alors c'est une toile énorme qui fait... 4 mètres 91 de haut sur 7 mètres 16 de large. On ne peut la voir qu'au Louvre parce qu'effectivement, on ne peut pas
l'installer.
Indéplaçable.
C'est un tableau fragile.
Et il sera restauré peut-être.
C'est très difficile en fait parce que c'est un tableau qui s'assombrit beaucoup avec le temps à cause du bitume qui est employé. Alors, je ne suis pas spécialiste de restauration. Certains disent c'est irréversible. D'autres, le tableau disparaîtra un jour. D'autres, non. En tout cas, il est sombre. Donc, il ne faut pas trop le. On peut pas vraiment y toucher. Je crois pas qu'on puisse se retrouver. On peut, contrairement à ce qui a été fait pour Delacroix au Louvre, et d'ailleurs très bien fait, où il y a eu beaucoup de tableaux sont restaurés, nettoyés. Pour le radeau de la Méduse, c'est pas possible.
Donc l'urgence absolue, c'est d'aller le visiter et d'aller le voir.
D'aller le voir au Louvre, bien sûr.
Ouais. Ben, évidemment. Et à ce moment-là, donc Jéricho a 27 ans. Et qu'est-ce qu'on entend, non pas à la radio, mais dans les salons? Eh bien, du Berlioz.
Je l'entends qui fait dans
Le dépit de la bergère d'Hector Berlioz, écrit en 1819, l'année du radeau de la Méduse, peint par Géricault. Au piano, c'était Jeff Cohen et la chanteuse, c'était Elsa Dressig, évidemment. Géricault, à ce moment-là, a 27 ans et c'est ce qu'on entend dans les salons. Le dépit de la bergère d'Hector Berlioz, c'est assez joli.
Très joli.
Et donc, nous repartons au musée de la vie romantique pour cette exposition sur les chevaux autour de Géricault, j'ai envie de dire. À la fin de l'année 1810, Géricault entre dans l'atelier de l'artiste néoclassique Pierre Guérin pour se préparer à son futur métier de peintre d'histoire. Il voulait être peintre d'histoire. C'est extraordinaire, ça.
Non, c'est classique à cette époque. La grande peinture, la peinture qui permet d'avoir une véritable réputation, c'est la peinture d'histoire, donc la peinture mythologique, la peinture historique, la peinture religieuse. Et effectivement, tous les peintres, ou beaucoup de peintres, veulent être peintres d'histoire.
Parce qu'on est sûr d'avoir des commandes ?
On est sûr d'avoir des commandes. Pour les bons peintres, oui, ils ont beaucoup de commandes. Il y a des commandes de l'Église, il y a des commandes de l'État. Il faut se rappeler qu'on est au début de la Restauration et qu'il faut remplir les églises qui ont été largement vidées par la Révolution. Donc il y a beaucoup de commandes religieuses, par exemple. Donc oui, oui, il y a le salon qui est organisé au départ de manière un peu moins régulière, mais ensuite tous les ans, qui permet d'exposer de grandes peintures et d'être achetées par l'État, pour les églises notamment. Et puis également, sinon les peintres font des portraits qui sont aussi très lucratifs pour eux et qui sont plus faciles à vendre.
Alors tout au long de sa vie, Géricault ne cesse de représenter des chevaux à l'écurie et en liberté. Au-delà du simple motif animalier, il défend l'idée que cet animal exprime la diversité de la psychologie humaine ainsi que la puissance des passions et des sentiments. Le peintre restitue de la sorte la trivialité du quotidien dans les scènes du soin du cheval, de tendresse et de monte. L'écurie devient pour Géricault l'annexe de son atelier et le creuset de son inspiration, lit-on dans le catalogue. Mais cette passion qu'il a pour le cheval, il l'a pour l'animal, mais il l'a aussi pour tout l'univers autour de l'animal.
Oui, certainement, bien sûr, il montre à la fois les champs de course, il montre les...
Alors les champs de course, c'est quand il est en Angleterre. Hein.
En grande partie, oui, bien sûr, oui, tout à fait. Il montre les élégants qui se promènent à cheval, il montre les étables, il montre les lattes, comme vous l'aviez dit. Il montre les chevaux dans l'orage, il montre les chevaux morts, il montre beaucoup de choses, effectivement, autour du cheval. Le cheval fait partie de la vie de Géricault.
Il y a une toile qui est formidable, qui est prêtée d'ailleurs par le musée du Louvre, où on voit deux chevaux de poste à la porte d'une écurie. Et le tableau s'appelle aussi un postillon faisant rafraîchir ses chevaux, avec ce conducteur... De la poste aux chevaux qui donne à boire et à manger à ses bêtes. Géricault représente en fait une scène de la vie quotidienne et laborieuse de son siècle. Le postillon est reconnaissable à son écu porté au bras droit et c'est lui qui chevauche les équidés d'un relais à l'autre. C'est un tableau qui est quand même assez connu, là.
Oui, effectivement, il y a des œuvres très connues et magnifiques dans cette exposition.
Oui, oui.
Si vous allez la voir, oui, vous verrez beaucoup d'œuvres intéressante, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a même des œuvres de Buzet qui ne sont... Alors là, je peux en parler, moi je suis très prudent pour les œuvres de collection privée.
Oui.
Je ne suis pas spécialiste de Géricault, donc si je me trompe, après on va... Ouais. Mais clairement, même dans les œuvres de musée, il y a des choses bizarres. Il y a un tableau du musée de Besançon, un cheval dans l'étable, qui vous allez sur le site du musée de Besançon et vous voyez que le tableau est entourage de Géricault. Et à mon avis, il faut qu'il... manière de Géricault, ou genre de Géricault.
Oui.
C'est ce qu'on appelle la peinture de genre, peut-être. Mais en tout cas, c'est probablement pas Géricault. Il y a un dessin du musée d'Ixelles qui représente deux chevaux. Mais enfin, je vous l'ai montré avant, vous avez dit,
oui,
évidemment, c'est,
mais oui,
c'est
mais
pas
oui.
possible. Ce non. dessin n'est pas possible. Non. Enfin, 100 euros dans une brocante, vous auriez du mal à en vouloir. Enfin, je veux dire, c'est pas très rendre service à l'artiste que de montrer des œuvres comme celle-ci en disant c'est de Géricault.
Oui, ça c'est problématique. Donc il faut vraiment changer les cartels.
Je pense qu'ils le feront pas. Non, mais je pense que le problème est plus profond. Je pense qu'il faudrait faire quelque chose. Je sais pas, est-ce que c'est au Louvre de laisser des. Il y a des précédents. Je ne sais plus ça en tête, mais j'ai lu ça quelque part. Ben, est-ce qu'il faut laisser des œuvres du musée du Louvre, par exemple, qui valident.
Oui, bien sûr.
De bronze et qui valide l'attribution à côté, parce que finalement, on l'a vu pour un tableau récemment de Gustave Courbet qui avait été, enfin attribué à Gustave Courbet ou qui avait été exposé au musée d'Ornans. Ils ont dit, regardez, il est exposé à côté du tableau du musée d'Orsay. Ça l'a justifié, etc. Or, le musée d'Orsay avait dit, bah non, ça ne justifie rien du tout. Et finalement, le tableau, qui est un chef-d'œuvre qui devait se vendre à un musée étranger, n'a pas été vendu. Parce que ce tableau qui paraissait si évident de Courbet, peut-être qu'il avait quelques problèmes. Bah là, c'est pareil. C'est-à-dire que si demain, quelqu'un dit, bah, le tableau était dans l'exposition, ça prouve qu'il est de Géricault, ou le dessin, on pourra se poser des questions.
Alors, on parlait du cheval politique. Géricault va décrire les campagnes napoléoniennes et on voit d'ailleurs un retour, c'est un dessin, un retour de la campagne de Russie qui est tout à fait poignant, où on voit un homme quasiment aveugle sur son cheval et qui est tiré par un palefrenier qui est un de ses collègues.
Alors, je n'ai plus le dessin. Est-ce que c'est une estampe, peut-être ?
C'est
une estampe ou c'est un dessin ? Je ne l'ai plus en tête.
Voilà, il est là.
Oui, mais ça, c'est une, si je ne me trompe pas, c'est une...
Vous avez le cartel qui est là.
Le cartel ici. C'est une estampe, une lithographie.
Oui.
Les lithographies sont toutes authentiques, elles sont toutes de Géricault, dans l'exposition, et ça, c'est magnifique, effectivement.
Alors, ça fait partie d'un poignant corpus d'œuvres graphiques qui témoignent de l'intérêt de Géricault pour les sujets militaires et les malheurs de la guerre. On parlait de peintre d'histoire.
Oui.
Mais alors là, il est très, très sévère avec Napoléon et les campagnes napoléoniennes.
Certainement, bien sûr. Oui, mais c'est un peintre d'histoire, mais qui va au-delà de l'histoire, effectivement.
Il prend parti.
Il prend parti, oui. Il y a certains peintres, il y a beaucoup de peintres, la peinture de propagande, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Et existe à cette époque, bien sûr.
Parce que là, le repli fin 1812 de l'armée napoléonienne vers la France à l'issue de l'occupation de Moscou pendant la campagne de Russie, alors il entremêle dans la neige les soldats estropiés, le cheval exténué, on le voit, le chien affamé, il montre la misère, la souffrance des simples soldats dans une marche funèbre, dans ce chef-d'œuvre du genre.
C'est une tradition en Goya, par exemple, les malheurs de la guerre, c'est pas quelque chose de nouveau.
Non, mais
c'est quelque chose qu'effectivement.
Mais on connaît les engagements de Goya, moi je connaissais peu ou pas les engagements de Géricault. Ou en tout cas, quand je vais à l'exposition pour voir les chevaux de Géricault, j'y vais pas pour voir un engagement politique. Or là,
c'est vrai.
Il est là, il est bien présenté.
Tout à fait.
Donc c'est un point salutaire de l'exposition.
Oui, mais bien sûr, il y a beaucoup d'œuvres intéressantes dans l'exposition. Hein. Et elle est très bien présentée. Donc voilà, simplement, ce qui est ennuyeux, c'est qu'il y a plein d'œuvres qui ne vont pas.
Hélas. Et notamment des œuvres dites de collection privée.
Oui.
Il y a une œuvre aussi qui vient de Clermont-Ferrand, c'est ça ?
Non, alors ça c'est autre chose. C'est-à-dire que le commissaire Bruno Chenic, donc qui est le spécialiste de Géricault, qui est co-commissaire ici, attribue certaines œuvres dans les musées. Or, j'ai pu montrer très récemment, c'est pas moi qui ai fait la découverte, c'est un conservateur, Benjamin Couillot, qui m'a fait remarquer qu'une œuvre qui a été présentée, qui a été redécouverte à Clermont-Ferrand et qui a fait l'objet d'une exposition autour de celle-ci, soi-disant préparatoire au roi de la Méduse, est en fait d'Auguste Bigand. Un artiste un petit peu moins connu, je vous l'accorde.
Ah oui.
Et il y a un tableau qui s'est vendu, je crois, chez Christie's ou Sotheby's il y a quelques années, la même tête à peu près d'Auguste Bigand. Il y a un tableau, un Saint-Germain, dans l'église du Chesnay, si je ne me trompe pas,
oui,
qui est la même tête également. Le tableau est indiscutablement d'Auguste Bigand. J'avais recensé cette exposition dans la tribune de l'art et je me posais à l'époque la question de l'autographie. J'avais dit, pourquoi ne pas mettre attribué là ? Je ne m'étais pas trompé.
Et là, il est là.
Non, il n'est pas là, puisqu'il ne représente pas un cheval. Mais simplement, ça prouve qu'il faut quand même se méfier des fois des attributions assénées comme celle-ci. C'est Géricault, il n'y a pas attribué là. On peut toujours se tromper, tout le monde se trompe, tous les experts se trompent, tout le monde se trompe. Mais dans ce cas-là, quand on n'a pas d'éléments tangibles, quand c'est une nouvelle attribution, on met ici attribué à. Quand c'est une nouvelle chose, une fois, quand on publie quelque chose pour la première fois, qui n'est pas connu, on met souvent attribué à ou ici attribué à. Sauf si on a des preuves. Et là, il y a les preuves, on les attend.
Alors, non seulement il faut aller voir cette exposition, les chevaux de Géricault au musée de la vie romantique, c'est jusqu'au 15 septembre, mais il faut acheter le catalogue, parce que ça va devenir collector à la suite de tout ce que vous dénoncez.
Bah, le catalogue, il y a des images. Il y a quelques essais assez courts.
Merci. Merci beaucoup Didier pour ces explications. On peut vous lire dans la Tribune de l'Art.
Tout à fait, dans la Tribune de l'Art.
Merci Jean-Paul Lérine pour la réalisation.
Sur Internet.
Merci Jean-Paul Lérine pour la réalisation. François Dieudonné, Philippe Malpeuch, Madame Meyer et Madame Cléry pour la réussite technique de ce rendez-vous. Demain, c'est mardi, nous parlerons de littérature. On va vous proposer un certain nombre de livres pour l'été. Allez, bonne journée, je vous embrasse et le beau temps est arrivé.